l'ange de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Dans le classement du FT 120 pour la deuxième année consécutive, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui celle qui a mis très tôt les algorithmes au cœur de la recherche d'emploi, Stéphanie Delestre, cofondatrice de Kappa. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors Stéphanie, je précise que tu es également, je crois, au board de France Digital.
Alors j'étais, oui, mais j'étais à la création avec Marie Eklund, Delphine, plein de filles d'ailleurs.
Et aussi notre ami Olivier Mathieu.
Oui, tout à fait.
Qui co-anime avec Thomas le podcast 40 nuances de Next.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs grâce à cette émission que nous nous parlons aujourd'hui, car tu as été choisie comme Sista par Bertrand Florose, le fondateur de CityScoot, qui d'ailleurs te posera une question dans ce podcast un peu plus tard.
Ben merci, merci à Bertrand, à qui je pense très fort.
Alors, on présente presque plus Kappa, mais pour être sûr que tout le monde sache bien ce que c'est, je te propose l'exercice classique en start-up et en scale-up, qui est celle du pitch.
Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch.
Alors, si tu veux pitcher Kappa, Stéphanie.
Alors, Kappa, c'est une start-up. Où notre mission, c'est de trouver du travail aux gens et principalement aux cols bleus. Donc les cols bleus, c'est toutes les personnes non cadres, mais en fait, c'est celles qui font 90% de l'emploi en France et c'est celles sans qui on ne mangerait pas, on ne pourrait pas faire nos courses, on ne serait pas soigné dans les hôpitaux et les cliniques. Donc Kappa, c'est une start-up technologique où on développe des algorithmes pour mieux rapprocher les candidats des bonnes offres d'emploi qui leur correspondent. Et tout ça se fait de façon instantanée et automatique. Donc, en fait, au début, l'idée de Kappa, c'était vraiment de trouver du travail aux personnes qui en étaient éloignées. Et puis, au fil du temps, ben, ça a plutôt bien marché puisque on a créé Kappa en 2011. Très rapidement, on a eu plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de Français qui se sont inscrits sur la plateforme. Et en 2016, on a décidé d'être plus concret, plus actif encore et donc de digitaliser le marché de l'intérim. Et donc, aujourd'hui, Kappa, c'est la plateforme qui a digitalisé tous les process de l'intérim et qui trouve de l'emploi à plusieurs milliers de personnes chaque mois dans toute la France, dans tous les secteurs.
Et qu'est-ce qui manquait sur le marché quand vous êtes lancé ?
Bien, en fait, il manquait des services dédiés à toutes ces personnes qui ne sont pas cadres ou cadres dirigeants, parce qu'à l'époque, on avait des services déjà internet comme l'APEC qui fonctionnait bien, qui apportait un bon service aux cadres, et puis les chasseurs de tête qui eux aussi étaient au service des cadres. Mais en fait, à part Pôle emploi, il n'y avait quasiment rien au service des cols bleus. Et donc, on s'est dit, on va sauter plusieurs générations et on va directement utiliser toutes les nouvelles technologies qui sont à notre service pour devenir le chasseur de tête des cols bleus et leur apporter un service tellement, tellement unique et extraordinaire qu'ils vont l'utiliser rapidement. Et c'est ce qui s'est passé.
Et au tout début, comment tu as fait pour que ces cols bleus, qui peut-être avaient plutôt l'habitude de l'agence d'intérim au coin de la rue, aillent sur la plateforme ?
Qu'est-ce que j'ai fait au début ? J'ai fait une grosse erreur.
Ah, bah ça c'est intéressant.
J'ai fait une grosse erreur parce que je leur ai dit qu'ils pouvaient s'inscrire sur la plateforme sans CV.
Ouais.
Parce que à l'époque, je rentrais d'Allemagne. Et où je travaillais. Et donc, je me suis inscrite à Pôle emploi parce qu'il fallait que je retrouve la sécurité sociale. Et là, j'écoutais les gens, je suis allée 2-3 fois à Pôle emploi, Vitry-sur-Seine, et j'écoutais les gens, et en fait, tous les gens qui étaient au Pôle emploi disaient « mais j'ai pas de CV », voilà. Et là, la réponse était « venez à l'atelier CV qui a lieu dans 3 mois ». Je me suis dit « mais le CV, c'est quand même un blocage pour trouver un emploi ». Et en fait, là, j'ai changé d'avis. Le CV, finalement, c'est un bon outil pour trouver un emploi rapidement parce qu'en fait, on trouve toutes les informations dont nos algorithmes ont besoin pour proposer le bon emploi rapidement.
Mais peut-être vous leur donner un cadre pour faire ce CV.
Voilà. Et donc, la première idée, c'était de leur dire, si tu n'as pas de CV, ce n'est pas grave, viens sur Kappa, on va te donner un cadre et on va te faire ton CV de façon automatique. Donc ça, ça a été vraiment le facteur d'acquisition des personnes en recherche d'emploi qui se sont inscrites très, très, très massivement sur le site rapidement.
Et du coup, au début, comment tu as fait pour te faire connaître justement de tous ces gens-là? T'as fait des coups de com, des partenariats?
Alors, moi, je suis tombée dans le web au début des années 2000.
Ouais.
Donc, je pense qu'une de mes expertises, c'est de savoir comment aller chercher du trafic pour un site. Ça a été mon métier pendant très longtemps. Et donc là, j'ai vraiment utilisé tous les outils à disposition, à la fois offline et online, pour faire connaître le site. Mais vraiment tout. Et puis après, j'ai regardé ce qui marchait.
Les métriques, tu t'es servi de ton expérience passée.
Ouais, c'est clair.
Au service de Kappa.
En fait, ça a vraiment conduit ma vie. C'est-à-dire que j'ai, toute petite, je rêvais de changer le monde. Alors, c'est trois mots qui aujourd'hui sont un peu galvaudés, mais moi, c'était vraiment comme ça. Guidée par l'injustice. Et donc, je me suis toujours dit qu'il fallait que j'acquière beaucoup, beaucoup de compétences dans des domaines très variés pour un jour pouvoir créer quelque chose qui changerait la vie des gens. Et donc, j'ai acquis des compétences au cours de d'abord à l'école et puis ensuite au cours de mes premiers jobs avant Kappa. J'ai vraiment à chaque fois cherché à acquérir de l'expérience. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je lis beaucoup. Je regarde ce qui se passe autour de moi, je regarde ce qui marche, j'essaie de comprendre les tendances. Et c'est ça qui m'a toujours guidée.
Et quel a été le déclic du coup pour créer Kappa?
Le déclic, il s'appelle Philippe Colombel. Il dirige le fonds Partech. Et en fait, c'est lui qui m'a recruté en 2008 pour diriger une des startups dans lesquelles il avait investi à Hambourg en Allemagne. Et quand cette start-up était en cours d'achat, je suis rentrée en France et j'ai échangé avec Philippe. Et Philippe m'a dit, tu sais Stéphanie, on n'a pas beaucoup de femmes entrepreneurs en France, ce serait peut-être le moment que tu te lances. Voilà qui a été le déclic.
Et du coup, tu as suivi ce conseil?
Et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment. Mais c'est vrai que je pense qu'en tant que femme, il y a toujours ce fameux plafond de verre, pour le coup, qui ces 10 dernières années, quand même, tremble beaucoup. Donc, j'en suis très, très heureuse pour nous toutes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai eu besoin de ce petit déclic en me disant, mais finalement, j'ai fait le bilan des compétences que j'avais acquises. Et je me suis dit, ouais, c'est le moment, je ne suis pas trop mauvaise en commercial, en marketing, en finance. Je me suis sentie prête parce que j'ai senti que j'avais les compétences clés pour pouvoir lancer une entreprise.
Si tu devais nous décrire Kappa en quelques chiffres aujourd'hui.
Le chiffre le plus important pour moi, c'est le nombre de personnes qui travaillent grâce à Kappa.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on a à peu près 4000 personnes qui sont en poste, là en ce moment, dans plein de secteurs différents dans toute la France et qui travaillent avec Kappa. Donc ça, c'est pour moi le chiffre top de Kappa, et on n'en est qu'au début, on va continuer.
Et est-ce que le confinement a eu un impact sur ton activité?
Oui, Oui, le confinement a eu un impact fort puisque je pense qu'il y a eu le monde d'avant et le monde d'après du confinement.
Ouais.
Et en fait, le confinement a accéléré la prise de conscience de la transformation digitale par nos clients. Et donc, ça, c'est clé. Donc, Kappa, c'est la plateforme de l'intérim digital. On a digitalisé tous les process, le sourcing des candidats, le matching sur l'offre, toute la partie administrative, puisque c'est nous qui sommes l'employeur de ces 4 000 collaborateurs et que nous déléguons dans nos entreprises, chez nos entreprises clientes. Et en fait, on avait quelques freins encore dans le déploiement de Kappa.
De la part des clients.
Tout à fait. Alors, ouais. Absolument pas de la part des candidats. Tous les candidats, même ceux qu'on pense très éloignés des nouvelles technologies, savent tout à fait ce que c'est qu'un smartphone, l'utilisent pour communiquer avec leurs parents en France ou à l'étranger, pour faire leurs courses, pour communiquer. Donc en fait, chez les candidats, le smartphone, c'est de toute façon, mais chez 100% des personnes en recherche d'emploi en France, hein, quel que soit leur âge, leurs conditions sociales, leurs compétences, leurs expériences professionnelles.
C'est devenu un réflexe finalement.
Exactement.
Limite, ils cherchent plus sur leur téléphone que sur leur ordinateur.
Bien sûr. Et donc, en revanche, chez certains clients, il y avait une espèce d'appréhension en disant oui, mais vous n'avez pas d'agence physique, donc comment vous rencontrez les candidats et puis comment vous vérifiez leurs compétences, etc., etc. Et puis le confinement arrive. Et là, tout d'un coup, il y a des centaines d'entreprises en France qui avaient l'habitude de passer via des agences traditionnelles qui, tout d'un coup, personne ne leur a répondu pendant 24 heures, 48 heures, 72 heures, parce que les agences traditionnelles, il y en avait certaines qui n'avaient même pas d'ordinateur portable, ils avaient des ordinateurs fixes, etc., etc.
Or, eux avaient des besoins pressants.
Exactement. Mmh. Et donc, là, il y a eu d'abord chez les clients vraiment qui ont l'habitude d'utiliser intérim, une prise de conscience et un basculement très, très fort. Mais aussi, de toute façon, dans la tête de tous les Français. Aujourd'hui, on ne vit pas comme on vivait il y a un an. Et maintenant, le digital est partout.
Comment tu as financé le développement de Kappa?
C'est une bonne question. Avant de lancer Kappa, je travaillais pour des fonds d'investissement et je dirigeais pour eux une entreprise qui était basée à Hambourg, qui s'appelle Kype, et qui a été rachetée ensuite par le leader américain.
Et ça aide d'avoir eu cette expérience?
Bien sûr.
Pour aller lever des fonds?
Alors, ça aide parce que d'abord quand j'ai été recrutée par ces fonds d'investissement, j'ai découvert ce qu'était qu'un fonds d'investissement, leur mode de fonctionnement, j'ai découvert des hommes et des femmes qui travaillaient dans ces fonds d'investissement. J'ai aussi découvert à quoi ça servait un fonds d'investissement dans le cadre d'une entreprise. Mmh. Et quand j'ai rejoint Kype, j'ai fait une levée de fonds pour cette entreprise. J'ai découvert une grande partie des fonds d'investissement en Europe. Et je suis restée en contact avec eux. Et j'ai découvert que... Alors, c'est pas une obligation, hein, mais en tout cas, pour moi, un fonds d'investissement, ça a deux avantages. Le premier avantage, d'abord, c'est qu'il rencontre toutes les startups d'Europe, voire du monde. Et donc, ils savent exactement ce qui se passe. Ils voient les tendances, ils voient les rythmes, etc. Et donc, c'est une source d'information essentielle parce que quand on dirige une startup, on n'a pas forcément toujours le temps d'être au courant de tout.
Donc, c'est des feedbacks et des insights intéressants par rapport à ton marché et aux perspectives que tu peux avoir de développement.
Exactement. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'était aussi pour moi un bon métronome. C'est-à-dire qu'un fonds d'investissement, ça donne le rythme. Et ça nous... En tout cas, moi, ça m'a permis et ça me permet toujours de savoir comment se situe la société, est-ce qu'on est dans le bon rythme, est-ce qu'on fait les bons choix. Donc pour moi, c'était une évidence pour lancer Kappa de le faire dès le début avec des fonds d'investissement.
Et tu peux nous dire combien tu as levé?
Alors la première levée de fonds, c'était 1,7 million en 2011 avec 360 et Partech.
Ouais.
Et il y a une deuxième levée de fonds en décembre 2016 qui était avec toujours 360 Partech et Index, Dominique Vidal.
Et aujourd'hui, les enjeux auxquels sont confrontés Kappa?
Le principal enjeu, c'est que maintenant, on est vraiment au cœur de cette transformation digitale.
Finalement, c'est comme tu l'avais rêvé en 2008.
Ouais. Et donc, et 2010. On a commencé à réfléchir à CAPA en 2010 et on a vraiment lancé en 2011. Et donc aujourd'hui, toutes les personnes en recherche d'emploi, les candidats, ils ont bien compris le pouvoir des nouvelles technologies, des réseaux sociaux sur lesquels CAPA est très présent. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de candidats qui sont inscrits sur CAPA et qui continuent de s'inscrire. Aujourd'hui, on a une CVTech d'un peu plus de 5 millions de profils dans tous les secteurs, dans toute la France. Et notre enjeu aujourd'hui, bien, c'est d'être aux côtés de nos clients et de nos futurs clients pour leur montrer que la transformation digitale, elle est là et que CAPA, c'est leur solution digitale sur l'intérim.
Et de les accompagner dans cette transition.
Oui, il y en a certains d'ailleurs qui nous le demandent de façon très active en ayant des échanges sur des sujets RH avec eux. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils ont compris que CAPA, c'était leur solution, innée. Et donc, ils décident juste de prendre CAPA. Ils se disent, voilà, c'est notre solution digitale et ça se fait de façon extrêmement rapide et directe. C'est vraiment en fonction des attentes des clients, des entreprises.
De quoi tu es la plus fière dans cette aventure ?
De quoi je suis la plus fière ? Ce dont je suis la plus fière, c'est l'équipe CAPA. C'est les hommes et les femmes qui travaillent chez CAPA.
T'as combien de collaborateurs aujourd'hui ?
Aujourd'hui, un peu moins de 100.
Ouais.
Voilà. Donc c'est vraiment les hommes et les femmes qui font l'équipe CAPA. Mais j'ai envie de dire l'équipe CAPA au sens large, parce que nous, on a un peu moins de 100 collaborateurs en interne, mais on a des milliers d'intérimaires qui sont des collaborateurs CAPA, puisqu'ils ont un contrat de travail avec CAPA. Et donc, c'est ces milliers de personnes qui, aujourd'hui, travaillent CAPA pour nos clients. Et c'est vraiment ça dont je suis le plus fière. Mon kiff le matin, ce qui me fait tenir tous les matins et ce qui me donne une pêche incroyable, c'est quand je me dis aujourd'hui, je vais sur Beurre FM, la maman de Malika va m'appeler et puis elle va me dire Stéphanie, j'arrive pas à trouver un stage ou un emploi pour ma fille, est-ce que vous pouvez m'aider ? Qu'elle va me rappeler une semaine après pour me dire Stéphanie, c'est bon. Voilà, moi ce qui me fait kiffer tous les matins, c'est de trouver du travail aux gens et que les gens... Et que ce soit simple pour eux et tout ça dans un climat de bienveillance. Voilà.
Parce que du coup, juste pour le préciser à nos auditeurs, tu as une rubrique régulière sur Beurre FM.
Ouais.
Tu peux nous en dire deux mots ?
Tous les mercredis, de 11h à midi, je co-anime avec Philippe Robichon, journaliste de Beurre FM, une émission qui s'appelle « Les petites annonces de l'emploi ». C'est la seule émission dédiée à l'emploi en France, en direct, où les entreprises nous appellent pour proposer leurs offres d'emploi. Donc, on a vraiment tout type d'entreprises, des grands groupes, des entreprises de services à la personne, des restaurants, alors un peu moins en ce moment, mais ça va repartir. Et puis, des familles, que ce soit le jeune qui cherche une alternance, la maman qui veut aider sa fille à trouver un emploi, le papa qui cherche un emploi en ce moment, qui aussi appelle pour qu'on échange sur leurs recherches. Moi, je suis là pour leur donner des conseils. En général, ils aiment bien, donc je pense que c'est des bons conseils. Mais vraiment, c'est un moment, une respiration où on se parle en confiance. Et où moi je suis vraiment à la disposition de tous les auditeurs et les auditrices pour répondre à leurs questions et leur montrer que finalement l'emploi, la recherche d'emploi peut être vécue comme une expérience douloureuse, mais qu'en fait quand on est ensemble et qu'on se soutient, ça va beaucoup mieux. Donc c'est une émission qui dure depuis des années où on a vraiment des fidèles qui nous appellent. Et moi personnellement, c'est ma respiration parce que voilà, les gens sont tellement gentil, on est bienveillant, on s'échange sur des bons plans. Donc voilà, c'est un moment où on est bien ensemble.
C'est un moment de partage et c'est aussi un moment qui fait sortir du pur écosystème start-up.
Oui, moi, ma vie, ça a toujours été... Moi, je suis quelqu'un de très curieux, je viens de la banlieue. Et donc, pour moi, c'est aussi une façon de rendre ce qu'on m'a donné. Et moi, ce qu'on m'a donné, c'est principalement ce que l'école de la République m'a apporté, hein, l'école qui est gratuite. Et donc, je me suis toujours dit... je sais pas comment dire, L'école a été là pendant très longtemps. Et puis après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont accompagnée au fil de ma carrière, toujours en ce moment. Et ça me permet de... Pour moi, c'est une façon de rendre ce que j'ai reçu, quoi. Et c'est important.
Justement, dans l'univers startup, on adore le terme écosystème. Tu nous as parlé tout à l'heure de cette rencontre avec ce fonds d'investissement. Il t'a aidé, toi, cet écosystème pour développer Kappa ?
Oui, beaucoup. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pars en Allemagne pour diriger une start-up en 2008. Je reviens en 2011. Et moi, quand je suis à Hambourg, je découvre justement un écosystème à Hambourg qui est super sympa, où les entrepreneurs se retrouvent le vendredi soir au Biergarten pour partager une bière, ou quand des startups vont pas bien, elles disent aux autres, bah écoute, là ça va pas bien en ce moment, je peux pas garder 5 collaborateurs, mais ils sont top, est-ce que toi tu pourrais pas les recruter, etc. Et voilà, et je rentre en France en 2011, et il y a rien de tout ça. Et là, je me retrouve mais seule, quoi, seule. Et en fait, tout d'un coup, Marie Ekland propose le lancement de France Digital. Et là, je retrouve tout d'un coup, très rapidement, grâce à cette origine, grâce à la création de France Digital, ça y est, cet écosystème que moi, j'avais découvert en Allemagne et qui, ça y est, qui se crée avec des entrepreneurs qui se retrouvent pour échanger des bons plans, aussi pour se soutenir, hein, parce qu'on est souvent très, très seuls. Pour se soutenir, pour échanger sur les échecs et les succès, et pour aussi souffler à certains moments. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on vit quand même une vie, en tout cas, selon moi, on vit souvent une vie qui est très, très unique et qui n'est pas commune. Mmh. Et donc, on ne peut pas en parler à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas forcément comprendre. Donc le fait d'avoir cet écosystème et de pouvoir se comprendre en utilisant les mêmes mots, en vivant la même vie à certains moments, c'est un énorme soutien et pour moi je trouve ça cool
de pouvoir compter comme ça sur l'écosystème. Et d'ailleurs, Bertrand en parlait dans son dans son podcast en disant qu'il t'avait rencontré lors d'un dîner d'entrepreneurs et que pour lui c'était aussi important de faire travailler l'écosystème.
Ouais. Exactement. Et ouais, c'est vraiment super important, super agréable. Voilà, encore une fois, c'est une bulle de confiance, de bienveillance. Et c'est important parce qu'on est quand même sollicité tous les jours. On n'a pas des bonnes nouvelles tous les jours. On est dans un univers. Moi ce que j'adore dans ce que je fais, c'est que j'ai l'impression, moi j'ai besoin d'adrénaline pour vivre. J'ai vraiment besoin d'avoir des émotions fortes et qui peuvent être positives ou négatives. Mais si on en a des négatives, de toute façon on en a des positives après. Et donc moi c'est ce que je dis, la vie d'entrepreneur, en tout cas la mienne, c'est comme si je sautais 100 fois en parachute tous les jours. Et en fait, j'adore ça. Et donc, mais c'est aussi important d'avoir, quand on saute en parachute, on a une équipe autour de soi. Hein. On a un pilote d'avion, on a la personne qui nous aide à plier le parachute, ou en tout cas qui nous apprend.
Il y a ceux qui sautent avec nous,
voilà. Et pour moi, c'est en tout cas, c'est vraiment l'image que j'ai de ma vie tous les jours. Et donc, c'est important d'avoir aussi tous ces gens-là qui sont soit dans votre équipe directe, soit les gens avec qui vous travaillez, vos clients, nous, chez nous, tous nos intérimaires, tous nos candidats, mais aussi au sens large. Donc tout ça pour moi, en tout cas pour moi, les hommes et les femmes, c'est ce qu'il y a de clé, quoi. C'est ce qui me fait vivre tous les jours et c'est pour ça que je me lève tous les matins, quoi.
Alors, tu nous disais que tu as travaillé une dizaine d'années dans l'univers des médias et du digital avant de lancer Kappa. Tu as su créer des communautés et donc tu connais le pouvoir des réseaux sociaux. Comment on gère une crise, si on peut appeler ça une crise, quand on se fait dénoncer en ligne ?
Pour moi, la meilleure des réponses, c'est la transparence. C'est-à-dire que moi, j'ai rien à cacher. Et d'ailleurs, on a de la chance, on a des très beaux bureaux en plein cœur de Paris, donc c'est facile pour et les gens à Paris et les gens en province de monter nous voir à Paris, et ils seront accueillis autour d'un bon café ou d'un bon thé avec des petits gâteaux et d'échanger. Encore une fois, moi ce qui me guide, c'est l'adrénaline, la curiosité, et en fait c'est la sensation de vivre de façon très intense 24 heures sur 24. Et donc, les réseaux sociaux, c'est intéressant aussi parce que tout d'un coup, on a accès au monde, on a accès à des gens auxquels peut-être on ne pourrait pas avoir accès. Donc c'est incroyable. Et puis après, c'est vrai qu'on peut aussi trouver sur des réseaux sociaux des gens qui disent bah, « je ne suis pas content ». Voilà. Donc pour moi, la meilleure façon d'y répondre, c'est la transparence en disant bah, « venez chez Kappa, venez, on va se boire un café, on va passer un moment cool ensemble, on va échanger, on va débattre. On va discuter. » Voilà. Ce qui est compliqué, c'est quand cette proposition-là, qui est une proposition de politesse minimum, n'est pas possible.
Ouais.
C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué de façon anonyme. Moi, j'ai fait des études d'histoire. Je suis passionnée d'histoire. Et donc, le fait, dans un pays comme le nôtre, d'avoir une parole libre, pour moi, est extrêmement important. C'est-à-dire, pour moi, on peut parler de tout, sans filtre, quand on veut, c'est extrêmement important. Mais après, la chose, c'est aussi quand on exprime ses idées ou ses points de vue, normalement, c'est de le faire en disant, bah voilà, moi, je suis Stéphanie Delestre, mon point de vue, c'est ça. Et après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais moi... Le débat, pour moi, est important. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément possible. Et donc, les dérives, pour moi, sont...
Pour toi, c'est l'anonymat qui fait que le débat n'est pas possible ?
Bien sûr. Demain, je peux accuser n'importe qui de n'importe quoi sous anonymat. En revanche, Stéphanie Delestre, c'est un peu plus compliqué.
Oui.
C'est un peu plus compliqué parce que là, je peux être... D'abord, on va pouvoir regarder dans quel contexte je tiens ces propos. On va aussi pouvoir m'attaquer au tribunal pour diffamation. Je rappelle quand même qu'en France, il y a la justice est le troisième pouvoir protégé. Et c'est important que ça reste comme ça. Nous, chez Kappa, oui, on a eu des avis négatifs sur certains réseaux. Alors, c'est marrant, il y en a qui sont supprimés, hein, parce que quand on demande après... avoir les contenus et donc qui les a écrits, quelquefois il y en a qui sont supprimés. Mais encore une fois, moi, le plus important, c'est de dire, si vous avez des choses à dire, il faut pouvoir les dire. Il faut pouvoir les dire en se citant. Voilà, pour qu'on puisse y répondre, en débattre.
Il y a aussi le fait d'assumer ses propos, finalement.
Je ne sais pas si c'est assumé. Il y a beaucoup de gens qui n'assument rien.
Hein. Mais c'est pour ça qu'on en est là. L'anonymat est plus facile.
Oui, mais après, moi, ce qui me fait toujours peur, encore une fois, c'est que il faut pouvoir répondre. Et il faut pouvoir, si c'est nécessaire, se défendre au tribunal. Donc, quand on va au tribunal... Moi, voilà, je respecte la justice. C'est un sujet qui peut apporter des dérives extrêmement graves. Je ne vais pas revenir sur des faits où il y a quand même un professeur qui est décédé. Moi, je viens d'une famille de profs. Hein. Il y a quand même un professeur qui a été assassiné. Donc ça peut arriver à des situations. On peut arriver à des suicides. On peut arriver à des entreprises qui ferment où il y a des dizaines, des centaines, des milliers d'emplois. On peut arriver à n'importe quoi, quoi. Donc moi, c'est pas ma façon de faire. Quand j'ai des choses à dire, je le dis, et je le dis sous mon nom.
Et selon toi, ce phénomène qui prend de l'ampleur ces dernières semaines, qu'est-ce qu'il dit de notre société ?
Alors d'abord, je pense pas qu'il prenne de l'ampleur du tout. Pas du tout, parce que vous savez, c'est un effet de mode, quoi. Tout d'un coup, on en parle, puis tout d'un coup, après, on n'en parle plus. Donc non, ça prend pas de l'ampleur. Qu'est-ce que ça dit de notre société ? À mon sens, rien. Parce que d'abord, c'est pas un phénomène qui prend de l'ampleur. Deuxièmement, c'est un épiphénomène dans un petit groupe que ça intéresse à un moment T. Moi, c'est pas mes sujets. Moi, mes sujets, c'est je suis curieuse, donc je regarde tout ce qui se passe autour de moi. Moi, j'ai été formée encore une fois à l'école où on m'a appris à analyser, à synthétiser et à savoir critiquer au sens noble du terme. C'est pas les sujets importants en ce moment, quoi.
Et toi, il y a eu des répercussions auprès des, je sais pas, des clients ou des collaborateurs?
Alors, en fait, moi, j'ai été informée que, bah, qu'il y avait des personnes qui parlaient de toutes les startups, parce qu'on parle d'écosystème, les collaborateurs, ils vivent dans cet écosystème. Et donc, ils m'ont dit, Stéphanie, t'as vu, il y a des trucs, à la fois des trucs dithyrambiques, mais t'es sûre que ça se passe comme ça, ou des trucs, il y a des gens qui critiquent. Donc, je suis allée voir. Et donc, la réponse des collaborateurs, on s'en est parlé, oui, parce qu'on se parle de tout, hein. Il n'y a pas de sujet caché, on se parle de tout. Et la réponse des collaborateurs, nous, on aimerait bien, s'ils veulent venir, s'ils veulent qu'on parle, etc. Donc, encore une fois, moi, j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir chez Kappa prendre un café, à ce qu'on se parle sur des sujets libres et variés. Nous, par exemple, on organise des petits déjeuners où on a des invités, où on a, alors là avec le confinement, on a dû arrêter, mais on a des invités très différents, soit des entrepreneurs, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs qui émettent le désir un jour de lancer leur propre boîte, et ça j'adore quoi. Moi je pense que mon...
T'en as déjà eu d'ailleurs ?
Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Je suis super fière parce que un de mes objectifs, c'est à la fois de faire mon premier objectif, c'est de faire grandir toutes les personnes avec qui je travaille et qui me fassent grandir. Et puis mon deuxième objectif, c'est pour tous ceux qui veulent lancer leur boîte, si je peux leur donner, en tout cas s'ils peuvent se voir comment ça se passe de l'intérieur, le vivre, avoir des expériences positives, négatives, pour après pouvoir lancer leur boîte et tout. Je trouve ça génialissime. Donc oui, j'en ai eu et je suis super fière. Voilà, mais donc comme on aime bien rencontrer des gens différents, et tout le monde est invité chez Kappa quand il souhaite, et on échange là-dessus.
Donc l'invitation est lancée.
Ouais.
Stéphanie, quelquefois on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. La toute première fois où tu t'es complètement plantée sur un recrutement?
Je me souviens pas. Non, je me souviens pas.
Alors, on a une émission avec des jeunes, quand ils savent pas quoi répondre, ils me disent « swipe ».
Alors, swipe.
Alors, une autre toute première fois. La première fois que tu t'es retrouvée de face à un invest.
Ouais.
Tu peux nous raconter ?
Un investisseur ?
Ouais.
Bah, c'était pour un entretien d'embauche.
Non, pour Kappa.
Ah, pour Kappa ?
Ouais.
Bien, Oui, alors c'était top parce que moi j'avais travaillé pour des fonds d'investissement, puisqu'ils m'avaient sélectionné pour diriger une de leurs sociétés. Et donc ensuite, quand je leur ai présenté Kappa, c'était top parce que moi je croyais dans mon rêve à fond. Et en fait ils m'ont encouragé dans ce rêve. Donc en me disant, mais Stéphanie, c'est le moment, quoi. Vas-y et tout, donc top. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Encore une fois, moi j'ai une
On a eu deux C-stars récemment qui étaient en phase de levée de fonds et qui, en 2020, pour le coup, ont ressenti encore des discriminations ou des questions particulières parce qu'elles étaient des femmes. Toi, t'as jamais connu
jamais,
ça?
Jamais. Moi, au contraire, j'ai toujours été soutenue, écoutée, mais en tout cas, je n'ai jamais entendu ou senti la moindre différence parce que j'étais une femme entrepreneur. Voire même plutôt un accueil très très ouvert en disant on n'a pas assez de femmes entrepreneurs, on en a besoin. Moi, j'ai plutôt senti des forts encouragements sur ce point-là. En revanche, après, sur la partie business, je pense que dans leur tête, qu'on soit une femme, un homme, vieux, jeune, ça n'a absolument aucun impact. Ce qui est important, c'est le projet, l'équipe. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai toujours ressenti.
Top. Et ton premier client, tu t'en souviens ? Chez Kappa ?
Oui, je m'en souviens. Mon premier client, en fait, c'était un friend. Voilà, parce que ben, quand on commence une boîte, on n'a pas un client, on n'a pas de produit, on n'a pas un collaborateur, on n'a rien. Moi, je m'en souviens, c'était dans une cuisine. Nous, c'était pas dans un garage qu'on a commencé à écrire les premières lignes de code de Kappa. C'était dans une cuisine. On n'a rien. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait là ? On fait comme tout le monde, hein, quelle que soit notre carrière passée. Là, en plus, moi, je me lançais dans un domaine. J'arrivais d'Allemagne, donc j'avais rien en France. Voilà. Donc, ça a été un pote.
Quel est le conseil qu'on t'a donné et que t'as jamais suivi? Et c'est peut-être tant mieux.
Le conseil qu'on m'a donné et que j'ai jamais suivi.
Ah, ça y est.
Repose-toi ou prends des vacances.
On va y revenir à ce sujet-là. Et le meilleur conseil que tu as reçu?
Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est celui de ma maman, qui n'est pas du tout entrepreneuse, qui n'a jamais été dans ce secteur-là, et au contraire, qui a une vie plutôt difficile. Et le meilleur conseil qu'elle m'a donné, c'est respecte les gens autour de toi. Respecte tout le monde et intéresse-toi à eux et sois curieuse d'eux. Et ça, c'est... Voilà.
Et le conseil que toi, tu voudrais donner?
Je trouve qu'on a une chance extraordinaire, c'est de vivre une révolution industrielle incroyable et donc d'être curieux. La curiosité, ça mène à des rencontres incroyables, ça mène à découvrir des univers qu'on ne connaissait pas, donc être curieux.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous?
Là, Stéphanie fait des gros yeux. Elle était comment, Stéphanie, petite?
Elle était dans une famille très, très simple, très aimante, dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine, avec ses meilleurs potes. Ses meilleurs potes qui étaient ses frères et sœurs. Et donc, on était tout le temps en bas dans la cour avec des patins à roulettes aux pieds. Et la ville nous appartenait. Et voilà. Elle est toujours libre. Et soudée. On était vraiment quoi. Il pouvait rien nous arriver, on découvrait le monde et on, voilà, avec nos patins à roulettes.
Et c'est des gens que tu vois toujours aujourd'hui?
Non, parce que Kappa, c'est quand même devenu ma vie depuis 10 ans.
Kappa t'accapare un petit peu.
Ouais, exactement. Exactement.
Tout à l'heure, tu disais, quand j'étais petite, je voulais changer le monde.
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles de soit de rencontres, soit de discussions, soit de choses qui a pu t'arriver dans ton enfance où tu t'es dit, moi, je veux changer le monde? D'où elle te vient, cette volonté?
Et elle me vient de là d'où je viens, quoi.
Ouais.
Elle me vient de là d'où je viens. Voilà. Quand on est dans une cité, quand on vit dans une cité HLM à Vitry-sur-Seine, on vit dans un monde où, même si on est très aimé et qu'on a des amis très aimants, donc une famille très aimante, on se sent à la fois... On se sent avec une énergie et une liberté incroyable, mais contraint, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas né là où il fallait naître. Et là, il y a un sentiment d'injustice, énorme, et on se dit, en fait, je vais tout faire pour montrer qu'en fait, on est tous pareils, qu'on doit tous avoir les mêmes possibilités de réaliser nos rêves. Et voilà.
Et ça s'est passé par le travail, du coup, par les études,
ouais.
De t'encourager dans cette voie-là.
Ah oui, oui, moi j'ai. Alors après, c'était une éducation aussi. Hein. Ouais. C'était une éducation. Moi, je venais d'une famille pauvre, mais de professeurs qui. Bon, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais avec une histoire incroyable de ma grand-mère. Et donc, la culture, c'était tu vas t'en sortir par le travail.
Et cette grand-mère, elle t'a inspirée?
Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai été inspirée par des femmes. J'ai été inspirée par mes deux grand-mères, mes tantes et ma maman. Donc vraiment par des femmes, parce que malheureusement, j'ai perdu mon père très jeune. Donc j'ai vraiment été entourée de femmes et j'ai été inspirée par des femmes très fortes qui s'en sont sorties toutes seules, par le travail, le respect. Et donc j'ai été construite comme ça. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. J'ai pas choisi, hein.
Oui.
Mais c'était comme ça.
Et en tout cas, c'est ce qui te donne ta force aussi aujourd'hui.
Ah oui, je suis très fière de là d'où je viens. Je suis très fière de ce que je fais, mais je m'en donne les moyens. Quoi. J'ai toujours ces deux valeurs qui me guident. Encore une fois, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est comme ça. Et je ne me pose pas la question d'ailleurs.
Tout à l'heure, tu disais qu'un des conseils qu'on te donne et que tu ne suis pas, c'est prends des vacances, repose-toi. Où est-ce que tu trouves de la ressource? Où est-ce que tu t'inspires et où est-ce que tu trouves de la ressource reprendre des forces.
Bah, par exemple, là, juste avant qu'on commence cette interview, on a échangé avec toi et avec Thomas. Bah, c'était juste une petite bulle d'oxygène qui était très, très, très intéressante, très enrichissante, qui m'a fait du bien. Donc en fait, moi, je me ressource dans, en ayant des bulles d'oxygène avec des gens comme vous et tous les gens que je rencontre qui, à chacun, dans toutes les discussions, m'apportent quelque chose de nouveau et j'adore ça. Donc c'est vraiment ma ressource. Encore une fois, la curiosité guide ma vie. J'adore rencontrer des gens, j'adore parler de sujets très variés et c'est vraiment ça mes bulles d'oxygène et...
Les rencontres. Ouais. Du coup, je pense que c'est le moment d'écouter la question...
Oula. De Bertrand.
De Bertrand Fleurose.
Moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est... Ça, je n'ai pas préparé, mais j'ai envie de lui dire, mais pareil, la même question que celle que tu m'as posée en intro, c'est pourquoi tu cours, Stéphanie?
D'abord, Bertrand, ça a été une jolie rencontre aussi avec toi. Donc, merci, merci et merci pour cette question. Pourquoi je cours? Je cours parce que la vie est belle. Je cours parce que la vie est belle et pour moi, la vie, c'est de l'adrénaline avec donc des émotions très fortes, mais très différentes tous les jours. Et des rencontres, donc j'ai une soif de rencontres et d'apprendre. Et donc ce qui me fait courir, c'est, voilà, c'est rencontrer encore à la fois des personnes que je connais bien et que j'adore revoir et échanger, rencontrer des nouvelles personnes et apprendre. C'est ça qui me fait courir.
C'est une belle course en tout cas, un beau projet de course. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu aurais aimé lancer ou que tu aimerais lancer d'ailleurs? Parce que la vie est longue.
Alors en fait, certainement, mais je me pose pas la question en ce moment. Je vis un truc incroyable. J'ai vraiment l'impression de vivre quelque chose d'unique en ce moment avec Kappa, parce que voilà, je suis chef d'entreprise, j'ai fondé quelque chose en partant de zéro. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs milliers de personnes partout en France. Donc, on fait partie d'une des plus grosses entreprises de France. C'est une énorme responsabilité. Il faut savoir qu'il y a très peu d'entreprises en France qui emploient plusieurs milliers de collaborateurs. Moi, c'était vraiment mon rêve. C'était de faire travailler des milliers de gens, de leur trouver de l'emploi avec des outils ultra simples, de leur apporter un service top pour qu'ils se sentent qu'ils aient un outil top et simple pour trouver de l'emploi, donc dans un univers où ils se sentent en sécurité, en bienveillance, pour pas que ce soit anxiogène pour eux. On est en train de réussir ce pari. Donc vraiment, mon focus aujourd'hui, c'est de me dire, voilà, j'ai un outil qui est incroyable, une équipe qui est incroyable. Je fais travailler plusieurs milliers de personnes et donc il y en a encore d'autres milliers à faire. Et je suis vraiment concentrée que là-dessus. Oui, parce qu'à côté de ça, personnellement, je vis un rêve. Il n'est pas facile tous les jours, le rêve. Hein. On se prend des claques, on a des bonnes nouvelles, des mauvaises, etc. Mais encore une fois, c'est la vie du chef d'entreprise. Mais j'ai la chance de vivre la vie que je voulais, quoi. Et elle n'est pas facile, hein. Mais en tout cas, c'est celle qui, à un moment, voilà, c'était être chef d'entreprise, pouvoir apporter du travail aux gens et que ça se passe bien pour eux. Et en fait, là, on y est, quoi. Ça marche et donc il faut que ça marche encore pour le plus grand nombre. Donc, je pense qu'à ça.
Wow! Tu viens de dire, quand on est chef d'entreprise, on se prend des claques. C'est quoi la plus grosse claque que tu as prise?
Alors en fait, je voudrais répondre à cette question de façon différente. Je ne pense pas aux plus grosses claques, parce qu'en fait, la particularité, je pense, de notre métier, c'est qu'on s'en prend plein tous les jours. Et donc, je garde pas... Alors moi, j'ai une faculté à oublier les mauvaises nouvelles ou les mauvaises décisions, etc. Et à ne pas regarder dans le rétroviseur. Ça ne veut pas dire que j'oublie sans en garder les enseignements. Mais j'essaie vraiment de toujours regarder vers l'avenir. D'ailleurs, ce qui est un petit problème, parce que quelquefois, je suis passée dans le présent. Mais en tout cas, dans le passé, non. Donc en fait, je ne sais pas quelle est la plus grande claque que j'ai prise. Je sais juste que j'en prends tous les jours.
Ouais.
des petites, des moyennes, des grosses. Par exemple, un client qui vous dit, bah, finalement, non, je ne vais pas te prendre cet intérimaire-là, c'est une petite claque parce que ça ne me fait pas plaisir. Ou un collaborateur qui me dit, bah, Stéphanie, finalement, je vais monter ma boîte. Alors, à la fois, je suis super plaisir, mais en même temps, j'ai pas envie qu'il quitte Kappa. Voilà. Donc, des claques, je m'en prends tous les jours. Mais c'est notre vie d'entrepreneur, donc c'est comme ça que je voudrais répondre. C'est qu'on a des claques tous les jours, mais il faut les assumer, il faut les corriger, ou il faut évoluer. Et donc, en fait, moi, je suis en évolution permanente, voilà.
Alors, tu disais tout à l'heure que c'est la curiosité qui t'animait. En préparant cette interview, j'ai regardé des interviews de toi au tout début de Kappa, dont une où j'ai reconnu la voix de Thomas. Et tu disais que tu as mis donc les algorithmes au cœur de ton business, et tu en parlais au tout début comme une boîte noire qui permettait de faire des matchings, parce qu'à l'époque, les algorithmes, ce n'était pas un mot qu'on entendait tout le temps. Aujourd'hui, c'est un mot qui est partout, aussi pour la jeune génération. Comment tu gères cette idée que les algorithmes pourraient driver complètement la vie des jeunes générations?
Alors, d'abord, moi, je crois dans le futur. Et donc, je crois que les algorithmes sont à notre service. Après, il y a des institutions, il y a des experts comme des philosophes, des journalistes, des personnes, par exemple, je pense à des scientifiques de l'INRIA, du CNRS, de l'EHESS, etc., qui réfléchissent aux guidelines qui doivent nous entourer. Donc, moi, je suis d'une naturelle très optimiste, très positive. Je pense que les algorithmes, au contraire, ça nous change la vie, ça nous simplifie la vie. Nous, c'est ce qu'on démontre tous les jours chez Kappa. Tu t'inscris, tu télécharges l'app Kappa, tu prends une photo de ton CV, et deux minutes après, t'as des offres d'emploi qui te sont proposées. Tu cliques OK et tu peux commencer à bosser dans les 10 minutes, quoi. C'était impossible il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, on a été les premiers à commencer à utiliser les algorithmes à grande échelle pour rapprocher les candidats des bonnes offres d'emploi. Et effectivement, c'est galvaudé aujourd'hui, mais moi, j'ai une énorme confiance dans la jeunesse, quoi. J'adore échanger avec eux, j'adore regarder comment ils analysent les choses. On a tous été jeunes. En fait, ce qui m'étonne avec l'âge, moi, qui passe, c'est qu'en fait, je me rends compte que ma mère me disait la même chose, ma grand-mère me disait la même chose. Donc, il y a plein de choses qui évoluent, mais qui évoluent à notre service. Moi, j'ai une énorme confiance dans la jeunesse qui a accès aujourd'hui à des choses incroyables juste avec son téléphone. Quand je vois leur énergie, leur vitalité dans ce qu'ils font, dans toutes les formes d'art, quand je vois les nouvelles boîtes qui se créent tous les jours, j'ai une telle confiance en nous que je vois absolument pas de biais.
Mais en tout cas, c'est un peu ce que nous disent les jeunes dans notre podcast Philosophie, où on leur demande leur avis. Et c'est vrai qu'on est assez scotché par tout ce qu'ils font avec le digital.
Mais oui, non, mais c'est pour ça. Moi, j'ai une confiance, mais énorme. Et justement, j'ai un appétit quand je vois tout ce qu'ils font dans la musique, mais la musique et dans les stars. Tout. Ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, je me perds un peu, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste tellement incroyable. Et moi, je vois tous les aspects positifs. Et nous, en tout cas, à notre mesure, chez Kappa, c'est ce qu'on fait. On utilise les nouvelles technologies pour trouver de l'emploi à ceux qui avaient des difficultés ou pas, d'ailleurs, pour en trouver. Et ça marche, super bien. Et voilà, quoi. Donc, après, voilà, on est bien... On est bien éduqués, on a accès à plein de choses auxquelles on n'avait pas forcément accès, et de plus en plus, en plus. Et justement, le fait d'avoir accès au monde comme ça nous permet à nous tous de bien analyser les choses, d'avoir le bon sens critique. Donc, encore une fois, moi, j'ai confiance et ça marche, quoi. La confiance, ça marche.
La confiance, l'optimisme, la bienveillance.
Ouais.
Quelle est la question qu'on nous pose tout le temps et qui t'agace?
Quelle est la confiance? Là, je pense tout de suite aux aux collaborateurs Kappa. Quelle est la... Je pense à eux parce que... Non, je vais... En fait, ils m'agacent pas, mais ils me font rire. Donc non, j'ai pas de questions qui m'agacent. Encore une fois, vous avez abordé le sujet tout à l'heure sur est-ce qu'on peut tout dire à partir du moment où c'est pas anonyme et donc c'est pas diffamant et c'est pas insultant et qu'on peut répondre, on peut me poser toutes les questions. Moi, j'ai pas de questions qui m'ennuient. Encore une fois, la question, ce que j'aime bien dans la question, c'est qu'elle ouvre le dialogue. Donc dans le fait que j'aime les rencontres et que je suis curieuse, moi, il n'y a aucune question qui me braque ou... Voilà.
Et quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose et qu'on va te poser ?
J'aime bien quand on me demande comment je vais.
Et alors ?
Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis tellement vers les autres que quelquefois, on a l'impression que je suis un roc. Et que donc, voilà, moi je suis là. D'ailleurs, même les collaborateurs me parlent de choses quelquefois très personnelles et tout, parce qu'ils se disent Stéphanie, elle va écouter, elle va être de bons conseils, quoi, j'ai l'impression en tout cas. Et donc je vais super bien. Et je vais super bien en plus avec toi, parce que je trouve quand même que tu as une faculté à mettre les gens à l'aise et à parler facilement de choses qui peuvent paraître tellement compliquées que.
Voilà. Ouais, c'est gentil. En tout cas, c'est un très bon moment aussi pour moi. Et ma toute dernière question. Si toi, tu avais dû choisir une sista, une femme entrepreneur sur laquelle on mettrait un coup de projecteur, ce serait qui ?
Alors, ce serait Anne-Laure Constanza, qui a fondé Envie de Fraise. Ça a été une jolie rencontre. En fait... Il y a quelques années, on prend nos premiers bureaux au 104 rue d'Aboukir à Paris. Et puis, on était au deuxième, elle était au troisième. On se croise dans l'escalier. Elle partait, on ne s'était jamais parlé. Hein. Je la connaissais, elle me connaissait de ce qu'on avait fait, mais on ne s'était jamais parlé. On se croise dans l'escalier et je ne sais pas. Il y a eu un clin d'œil et elle me dit ah, « Tiens, salut Steph, je dis salut Anne-Laure. » Elle me dit « Tu vas bien ?» Je fais « Bah écoute, aujourd'hui, pas trop. » Elle me dit « Ah bah moi, pareil. » Et en fait, on se dit « Allez, viens, on va déjeuner. » Et en fait, depuis ce moment dans l'escalier, on s'en souvient toutes les deux, j'ai découvert d'abord une femme fondatrice très forte, avec une énergie incroyable, et une femme qui a su, selon moi, et c'est très personnel, mais très bien aussi lancer cette société incroyable, avec un parcours incroyable qui a su aussi faire sa vie personnelle de façon incroyable avec des très belles histoires avec ses enfants et donc pour moi c'est une force incroyable et en fait dès que j'ai un petit coup de moins bien je l'appelle et elle est toujours là.
C'est ta bulle d'oxygène finalement.
Une des bulles d'oxygène, mais très très personnelle quoi. Voilà. Donc Anne-Laure, tu sais que je sais que tu es là pour moi. Tu sais que je suis là pour toi. Mais ça a été un fort soutien et une très belle rencontre et c'est une très belle histoire d'amitié toutes les deux. Donc je pense tout de suite à Anne-Laure.
Super, ben merci pour cette jolie dédicace à Anne-Laure et merci à toi pour ce moment qu'on vient de passer ensemble, ta générosité et ta transparence sur tous les sujets et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup à toi.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jamin.